Dimanche passé, l'histoire assez idéale et idyllique de la première communauté à Jérusalem, vous vous en souvenez certainement, et son assiduité particulière à chérir et à se nourrir de la parole de Dieu. Voilà qu'un petit peu plus tard, Pierre s'adresse à une communauté en Asie mineure un peu dispersée. Et voici ce qu'il dit au chapitre 1 et au verset 17. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez, vous le craignez, selon les traductions. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent, comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru, dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Amen. Voilà donc que Pierre s'adresse à une église dispersée, en souffrance. Nous ne le sommes pas vraiment en tant qu'église, pour le moment, mais bon, l'avenir, nous ne le connaissons pas. Cela étant dit, nous apprenons beaucoup, me semble-t-il, de nos frères et sœurs des églises persécutées. Et c'est avec cet esprit humble et ouvert que je vous invite, tremblant et conscient de nos limites, à nous approcher de la parole de Dieu pour nous en ouvrir. Et je vous propose de méditer ce passage autour du thème de la liberté chrétienne. Alors, vous allez peut-être pas toujours être d'accord avec ce que je dis ce matin. Vous avez le droit. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, dit l'apôtre. Vous avez le droit. Cela étant dit, je vous propose de vivre cette liberté dans un contexte particulier, celui de l'entre-deux. L'entre-deux-tours, pas que présidentiel, hein, qui est représenté par le livre du Seigneur des Anneaux. Pour certains, on est dans cet entre-tours présidentiel. Mais je vous propose plutôt dans cet entre-deux-tours, entre la Pâque et la Pentecôte, entre la résurrection du Christ et ce moment où il sera glorifié pleinement. Nous vivons cet entre-deux, chers amis, cette liberté dans cet entre-deux. Nous vivons d'abord devant Dieu, qui est à la fois Père et Juge. Nous vivons libres, mais dans la crainte de Dieu, nous dit l'apôtre Pierre. Et nous vivons dans ce monde et en même temps, nous y sommes que de passage, nous dit Pierre. Voici donc les trois propositions qui feront corps de cette méditation. Commençons par la première. Nous vivons devant Dieu qui est à la fois Père et Juge. L'avez-vous remarqué que Marceline nous a invités à prier en conclusion de notre temps communautaire par ce « Notre Père » Mais Jésus aurait pu dire « Notre juge qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et c'est ce que nous dit Pierre. Il serait légitime de changer cette prière en ajoutant ou en changeant le Père par juge. Oui, nous sommes les enfants du Christ, les enfants de Dieu. Lorsque nous tournons vers Dieu, lorsque nous acceptons de recevoir son pardon, nous changeons, nous devenons enfants de Dieu, et nous avons le droit de nous adresser tout à fait légitimement à Dieu en lui disant « Notre Père », comme il le permettait déjà dans l'Ancien Testament, psaume 89, verset 27, Jérémie 3, verset 19, etc. etc. Ce n'est pas une nouveauté. Nous sommes adoptés. Dieu est notre refuge, notre soutien, celui qui est là pour nous soutenir au bon comme au mauvais moment. Au mauvais moment, il est là pour nous soutenir, comme l'a été le père de Derek Redmond. Je ne sais pas si vous connaissez cet athlète britannique qui qui a participé en 1992 aux Jeux olympiques de Barcelone. Il est qualifié pour les quarts de finale du 400 mètres. Il est en tête, il court, et voilà que le muscle arrière de sa cuisse lâche. Il s'effondre. Et vous avez peut-être vu les vidéos, vous pouvez voir les vidéos encore hein, sur YouTube. Il s'effondre complètement, alors qu'il était bien, bien parti. Alors tout le monde est un peu stupéfait et se demande ce qu'il doit faire. L'équipe médicale commence à vouloir s'approcher, mais il refuse. Les officiels, les organisateurs ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire, arrêter la course, qu'est-ce qu'il faut faire. Et voilà qu'un vieux bonhomme sort du public, va sur la piste et va vers son fils, avec sa casquette blanche, là, vous voyez le père, et dit à son fils, mais tu n'es pas obligé de finir la course, tu peux t'arrêter là. Et le fils dit, si, je veux y arriver, je veux aller jusqu'au bout. Alors le père dit, ok, l'a pris sous ses bras et l'a aidé à marcher jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la course. Oui, chers amis, Dieu est ce Père aussi qui nous soutient et qui nous aide à terminer la course, même quand on souffre terriblement, quand les larmes, quand la souffrance est tellement intense qu'on n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Dieu est ce Père qui vient nous soutenir. Mais en même temps, s'il est notre Père, alors nous devons être des enfants sages et lui obéir gentiment. N'est-ce pas? Mais bon, Pierre ajoute un autre élément, et il le dit, « Celui que vous nommez Pierre dans vos prières est aussi celui qui est le juge. » Parfait. Omniscient, il sait toutes choses. Et c'est celui qui va juger tout à chacun, selon ce qu'il aura dit, fait, voté, peut-être, j'en sais rien, pendant son passage sur terre. Alors, il y a de quoi trembler. Parce que Pierre nous présente dans cet entre-deux un peu particulier, mais il nous invite, me semble-t-il, à considérer peut-être avec moins de familiarité Dieu que l'on peut le faire parfois. Ne pas considérer Dieu comme un gentil papa, complaisant, peut-être un peu faible parfois. Ne pas considérer Dieu ou le enfermer dans certaines boîtes, considérant que si nous faisons telle ou telle chose, alors c'est sûr, Dieu va faire ceci ou cela. Les 7 clés pour recevoir la bénédiction de Dieu, vous êtes assurés, si vous respectez ces 7 clés. Mais Pierre dit, hey, attention, Dieu est Père. Oui, il répond aux prières, mais Dieu est aussi juge devant qui vous devez trembler. Il est ce magistrat, puissant, implacable, serein, juste. Alors c'est une source d'encouragement pour nous, chers amis, qui sommes les enfants adoptés de ce Père juge. Et en même temps, une profonde responsabilité, me semble-t-il. Car lorsque nous nous tournons vers Dieu, lorsque nous acceptons d'être appelés enfants de Dieu, lorsque nous croyons en Dieu, nous sommes libérés, mais pas libres de tout faire. Dieu ne nous laisse pas avec un blanc-seing. Il ne nous laisse pas vivre comme nous l'entendons. Il nous invite aussi à considérer avec gravité ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Voici ce que dit Paul aux Galates, au chapitre 5 et au verset 13 et 14. « Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves ou serviteurs les uns envers les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous ne sommes pas libres. Nous devons suivre les prescriptions de notre Père et juge. Il nous invite à quoi? Ni plus ni moins à aimer notre prochain, quel qu'il soit, quelles que soient ses origines, quel que soit son passé, son histoire. La vie chrétienne, la liberté chrétienne doit se conformer, selon moi, au standard de Dieu. On doit se placer à l'école de la vie de Dieu, éclairé par sa parole et rendu capable par son Esprit Saint. Dietrich Bonhoeffer disait ceci, « Le salut est gratuit, mais l'apprentissage exigera votre existence tout entière. C'est toute une vie, et encore bien plus qu'il faudrait, pour à la fois se réjouir d'être sauvé par Dieu, être pardonné, et en même temps d'arriver à suivre un tant soit peu les commandements de Dieu. Deuxième proposition, nous vivons libres mais dans la crainte de Dieu. Vous allez voir qu'on retrouve des éléments de ce qui vient d'être dit. Une double réalité. Vous avez été libérés, dit Pierre. Libérés. Notez qu'il a dit que vous ne dit pas « vous êtes libres », mais vous avez été libérés. Libre ou libéré. Alors libéré, je ne dirais pas délivré, je vous rassure, mais libéré par qui ? Parce que la formule est passive, n'est-ce pas ? Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette liberté, cette rédemption, cette façon dont Christ a payé à notre place. Mais je vous propose juste de répondre à trois questions. Libéré par qui, de quoi et comment ? La liberté nous est acquise par ce même Dieu qui est juge et qui est Père. Vous connaissez tous ces passages où il est dit que le Christ est envoyé par le Père pour nous libérer, nous affranchir. La seconde question, c'est de quoi ? De quoi le Christ nous a libérés ? Alors, Paul précise par exemple qu'il nous a libérés du péché, de la culpabilité. Mais ici, Pierre ne dit pas cela. Il nous dit, vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Idolâtrie, paganisme, toutes ces réalités contraires finalement à la volonté de Dieu. De tout cela, vous êtes libérés. Vous êtes nés à une nouvelle vie. Vous n'avez plus besoin de faire toutes ces choses, de respecter un certain nombre de consignes pour être juste devant Dieu. Libérés, oui, mais comment ? On retrouve cette image terrible du Christ présenté comme un agneau pur, sans défaut. Jésus qui n'a pas connu de péché, c'est lui qui a reçu la peine, c'est lui qui a payé le prix de notre pardon. Le sacrifice. Alors, c'est pas très en vogue, hein, comme mot. Il est très cher aux évangéliques, le sacrifice, mais pas très en vogue. Et pourtant, si on y réfléchit bien, lorsque nous sommes témoins d'un crime terrible, d'un attentat, qu'est-ce qui résonne dans notre cœur ? Il faut que quelqu'un paye, non ? Il faut qu'on débusque les auteurs de ces crimes, qu'ils payent, qu'ils soient sacrifiés. Il faut que justice soit rendue. Et ça serait bien si ça pouvait passer en live à la télé, n'est-ce pas ? Le sacrifice, il faut que quelqu'un paye. Il me semble que pourtant, même si ce terme n'est pas très populaire, il résonne ô combien dans notre cœur. Nous avons besoin que quelqu'un paye. Nous avons besoin que justice soit rendue. La question après, c'est de savoir comment payer, comment elle est rendue. Et ici, ce n'est pas nous qui sommes sacrifiés. C'est Dieu lui-même qui vient, qui envoie son Fils pour prendre sur lui le poids de notre condamnation. Deuxième image qu'utilise Pierre pour parler de cette liberté, cette libération, c'est le mot « rédemption ». Terme, un joli terme technique, mais qui renvoie certainement à une pratique de l'époque, certainement du monde grec, mais plus encore de l'Ancien Testament. Dans le monde grec, lorsque l'on voulait libérer un prisonnier ou un esclave, on plaçait l'argent dans le temple. La propriété de l'esclave ou du prisonnier était transférée à cette divinité en attendant d'être rachetée par quelqu'un. Mais plus encore, me semble-t-il, il renvoie à cette pratique ou cette histoire, ou ces histoires que l'on trouve dans l'Ancien Testament, ces moments où Dieu a libéré son peuple de l'oppression, de l'esclavage. Vous savez certainement de quoi je veux parler, l'exode et l'exil ensuite. Et voici ce que dit, ce que l'on trouve dans le livre du Deutéronome. C'est parce que le Seigneur vous aime, parce qu'il a voulu garder le serment qu'il avait fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir d'une main forte. Il vous a libérés de la maison des esclaves et de la main du Pharaon, le roi d'Égypte. Pourquoi l'a-t-il fait ? Je vous relis le tout début, c'est parce que le Seigneur vous aime. Le Seigneur nous aime et a tout fait, tout prévu pour que nous soyons libérés de tout ce qui pouvait nous enchaîner. La rédemption, c'est comme cette petite histoire d'un petit garçon qui avait un jour construit un beau petit voilier. Il y avait passé un long moment à assembler des morceaux de bois, mettre du goudron, coller, installer la voile. Et puis tout content, il veut aller dans un étang pour l'essayer. Il attache une petite corde et puis commence à marcher tranquillement avec son petit bateau qui vogue au gré des vents. Et puis tout d'un coup, la corde lâche. Voici que le bateau s'en va et le petit garçon, tout penaud, ne sait pas quoi faire. Triste, il rentre à la maison. Voici qu'un jour, alors qu'il va à l'école, il voit dans la vitrine d'un magasin ce qui semble bien être son bateau. Alors il rentre dans le magasin et dit au vendeur, « Mais monsieur, c'est mon bateau là que vous êtes en train de vendre dans la fenêtre, que je vois à la fenêtre. » Alors le vendeur lui a dit, « Mais désolé mon petit garçon, mais il y a quelqu'un qui nous l'a apporté ce matin et qui nous l'a vendu. Alors si vous le voulez, il vous faut le racheter. » Alors le petit garçon a couru à sa maison, cassé sa tirelire et a trouvé le juste montant pour pouvoir acheter son bateau. Alors il est retourné au magasin, content, a versé son argent et a pu rentrer avec son petit bateau. Et voici ce qu'il a dit à son bateau. « Maintenant, vous êtes deux fois à moi. D'abord, je vous ai fait, et maintenant, je vous ai acheté. » Le Seigneur est celui qui nous a créés, mais celui aussi qui nous a rachetés à un prix très élevé, très, très élevé. Et selon un plan, vous avez remarqué, qui se décline depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde, Dieu avait prévu Jésus-Christ comme moyen de réconciliation. Alors ça peut paraître étrange, n'est-ce pas ? Comment ça se fait que Dieu prévoit déjà la solution à un problème qui n'est pas encore existant ? Comment expliquer que Dieu ait prévu quelque chose alors que le problème n'a pas encore eu lieu ? La chute d'Adam et d'Ève n'a pas encore eu lieu. Pourquoi le fait-il ? Je vous laisse cette question à votre réflexion. Je pourrais vous donner des éléments de réponse, si vous voulez, à la fin du culte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose qui m'a touché quand j'ai lu ce texte, c'est que ce plan merveilleux, glorieux, théologiquement bien construit, selon les mots de Pierre, a été fait pour quoi ? Pourquoi Dieu a mis tout ça en œuvre ? Pourquoi a-t-il remué ciel et terre ? Pourquoi a-t-il envoyé son Fils ? Deux mots reviennent. Pour vous, dit Pierre, pour vous. Et sans que nous le méritions. La grâce coûte cher. C'est assez contradictoire, n'est-ce pas ? La grâce, c'est la gratuité, normalement. La grâce coûte cher d'abord parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. Ce qui coûte cher à Dieu ne peut être à bon marché pour nous, disait Bonhoeffer. Le coût élevé de la liberté implique une nouvelle responsabilité encore, à vivre l'Évangile dans la crainte de Dieu. Si nous sommes libres, nous ne pouvons pas tout faire ou faire n'importe quoi. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil, dit Pierre. Libre, mais craignant Dieu. Alors il ne s'agit pas d'une peur paralysante, comme celle qui fut celle du jeune Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis. Lorsqu'il était petit, il avait peur d'aller à l'église. Et un jour, sa mère lui a dit, « Mais pourquoi as-tu peur et tu trembles à chaque fois qu'on rentre dans l'église ?» Il a dit « J'ai peur d'un monstre. » Je ne sais pas si c'est un crocodile ou un dragon. Alors sa mère lui a dit « Mais qu'est-ce de quoi tu parles ?»« Mais oui, le pasteur, l'autre fois, en a parlé. »« Ah bon ? Mais de quel monstre parles-tu ? » ?»« Du zèle. Il s'appelle le zèle. » Mais de quoi tu parles ? Alors la mère a pris l'enfant sur ses genoux et ils ont pris la concordance et ils ont cherché les références où il était question du zèle. Et lorsqu'ils sont arrivés à ce passage de Jean 2 que vous connaissez, « Le zèle de ta maison me dévore. » Il a dit « C'est ça, c'est ce passage-là dont parlait le pasteur. C'est pour ça que j'ai peur d'aller à l'église. » Oui, chers amis, il y a une place pour la crainte de Dieu dans notre vie chrétienne. C'est sûr, nous sommes libérés de la façon futile de vivre dont parle Pierre. Mais bon, nous sommes aussi invités à la crainte, à cet amour révérencieux et respectueux pour Dieu. Une crainte qui nous conduit à agir en ayant en tête, dans notre conscience, que lorsque nous sommes au milieu de ce monde, nous devons agir, penser, prier, en conscience que Dieu est à la fois ce Père bienveillant qui pardonne, qui donne tout, mais en même temps qu'il est ce juge de toutes nos actions, celui que nous avons à craindre par-dessus tout. Pierre, devant le Sanhédrin, alors qu'il est accusé, dira ceci, « Ne faut-il pas obéir à Dieu plutôt qu'à des humains ?» La crainte de Dieu. C'est l'écho à notre conscience de la combinaison bienheureuse entre la grâce et la justice de Dieu. Les deux vont de pair. S'il n'y a pas de justice, alors il n'y aura pas de grâce. Ça n'aurait pas de sens. S'il n'y a pas de justice, il n'est pas question de grâce. Et il est des moments où même l'actualité nous renvoie à ça. Je ne sais pas si vous avez suivi tous ces débats autour de Jacqueline Sauvage, qui était condamnée pour avoir tué son mari. Et il y avait des manifestations pour obtenir la grâce qui a été d'abord partielle, puis ensuite totale. Et je pense que il y a des moments où on a envie de justice, que la justice soit rendue, mais il y a des moments où aussi on a envie du rayonnement de la grâce. Et en Dieu, il y a les deux. En Dieu, il y a les deux. La crainte de Dieu, chers amis, c'est ce tremblement légitime à la pensée du jugement, mais également la confiance que Dieu est souverain. Et c'est la reconnaissance aussi de tout ce qu'il a fait pour nous. Puisse Dieu nous aider en tout cas à être sel au milieu de ce monde, à apporter un message de grâce et de vérité. Enfin, pour terminer, troisième proposition, troisième lieu de tension, cet entre-deux. Nous vivons dans ce monde et en même temps nous y sommes en exil. Nous sommes des terriens, chers amis, des citoyens, français, ivoiriens ou autres. Il n'est donc pas juste, en tant que chrétien, de vouloir se retirer de ce monde. Pas juste de vouloir s'en désintéresser. Il nous faut être des chrétiens dans le monde, engagés en politique, selon votre appel, engagés dans l'écologie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais certains personnages qui étaient même en exil, personnages bibliques, je pense à Esther, à Daniel, à Joseph, étaient pourtant en exil et ont pourtant servi, ont été finalement des serviteurs, des agents de ces États dans lesquels ils étaient en exil. Mais ils étaient aussi en conscience que leur attachement était ailleurs. Nous sommes donc des citoyens d'un pays au milieu duquel nous sommes appelés à briller, par les moyens institutionnels qui sont prévus, ou en participant de toute façon, d'une manière ou d'une autre, à la vie de la communauté. Nous sommes aussi appelés à prier pour les autorités, en apportant notre voix aussi au chapitre, pour donner l'éclairage de l'Évangile. Parce que si l'Église ne le fait pas, alors qui va le faire ? Mais il y a un mais, et c'est peut-être là que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Si c'est vrai que nous sommes citoyens, français, terriens, nous sommes aussi en exil. Des résidents temporaires, nous dit Pierre. Et il nous invite, à mon avis, à prendre un peu de la hauteur, du recul. Depuis environ une semaine, je le fréquente de moins en moins les réseaux sociaux. Parce qu'on y va tous de notre bonne parole. Mais je crois que nous sommes, en tant que résidents temporaires, invités au recul, à prendre de la hauteur, à considérer le plan de Dieu qui se décline depuis la fondation du monde et jusqu'à sa fin. Nous sommes déjà libérés de la vanité de ce monde, mais nous ne sommes pas encore partis dans là-haut, dans les hautes sphères spirituelles et célestes. Nous sommes en transit pour pouvoir parler, proclamer, annoncer l'amour et le pardon de Dieu avant toute chose. Nous sommes en transit. Ce qui me fait penser, et ce qui devrait, me semble-t-il, éviter un trop fort attachement à notre nation, à laquelle on appartient. Éviter même peut-être certains comportements trop exclusivistes, voire nationaliste. Attention, hein, ça ne signifie pas qu'il faut se retirer du pays dans lequel nous habitons, qu'il ne faille surtout pas l'aimer, s'en retirer, s'en désintéresser. Mais cet exil dont parle Pierre nous pousse à réfléchir un peu et nous pose la question de notre relation à l'État, du poids, de l'équilibre que nous faisons entre citoyens et chrétiens. Sommes-nous d'abord chrétiens et citoyens ou citoyens ? Puis chrétiens. Quelles paroles devons-nous mettre en avant lorsqu'elles sont contradictoires ? La loi de l'État ou la loi d'amour de Dieu ? Vous le savez, dans l'histoire, il y a eu des moments particuliers où nous avons été soumis à un régime, des régimes qui n'ont pas toujours été très très gentils. Façon de parler. Et plusieurs se sont interrogés. Oui, je suis soumis au régime, aux lois du régime de Vichy, par exemple. Oui, je suis soumis à telle ou telle loi d'un dictateur qui est mise en place. Pour autant, dois-je y obéir lorsqu'on vient toquer à ma porte et me dire « Est-ce que vous avez des juifs chez vous ?» Cet exil que nous vivons nous invite, je crois, à prendre du recul et à réfléchir. Je ne vous donne pas les réponses, mais simplement nous inviter à prendre un petit peu de hauteur. Pour conclure, chers amis, nous sommes dans un entre-deux-tours, avec peut-être des inquiétudes plus concrètes pour dimanche prochain, des doutes, des peurs, mais je crois que Pierre nous invite à l'espérance, à ne pas avoir peur, à agir plutôt que de réagir. Quiconque craint encore les hommes ne craint pas Dieu. Quiconque craint Dieu ne craint plus les hommes, disait Bonhoeffer. Et quand vous connaissez l'histoire de ce bonhomme, vous mesurez la parole, le poids de cette parole. Nous craignons qu'une seule chose, dit Pierre. Pas que le ciel nous tombe sur la tête, nous craignons qu'une seule chose, mais plutôt qu'une personne, créateur, rédempteur et père, c'est Dieu. Alors, chers amis, en hommes et en femmes libres, mais en hommes et en femmes craignant Dieu, Pierre nous invite à agir, à ne pas avoir peur, à avoir confiance que Dieu a tant accompli, a tout accompli par amour pour chacune et chacun d'entre nous. N'ayons pas peur, gardons confiance en Dieu. Et je voudrais vous inviter à vous lever maintenant. Nous n'allons pas entonner l'hymne national, je vous rassure. Mais je voudrais vous inviter, en hommes et en femmes libres, libérés par Dieu, à proclamer votre confiance, à dire que nous croyons en Dieu et que bien que les circonstances peuvent être troubles, nous avons confiance que celui en qui nous pouvons nous confier pleinement et entièrement, c'est Dieu le Père. Alors, ensemble, lisons, proclamons, prions cette confession de foi. Nous croyons en toi, Seigneur. Tu es source de vie. Nous croyons en toi. Tu es Père. tous les hommes, créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme, la femme à ton image. Nous croyons en toi, Seigneur, tu apportes la vraie vie. Nous croyons en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es vie. Nous croyons en l'Esprit qui vient de toi et de ton Fils. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Nous croyons en toi, Seigneur, ton amour nous unit. Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères, que notre amour doit s'étendre à tout homme. Nous croyons que sauvés du mal, de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Nous croyons, toi, Seigneur, tu nous donnes la vie. Amen.